Quand je pense à ma vie, je pense que j'ai été quand même très absente. Sauf peut-être de l'amour de mon enfant.
Marguerite Duras.
Absente, c'est comme ça, écrit tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas seulement quand on écrit. C'est un quant à soi qui est complètement impérieux, qui ne cesse jamais, dont on est complètement la victime. Enfin, c'est assez horrible.
Ça peut pas faire de mal.
Après chaque livre, je me dis que c'est fini, que je ne peux plus vivre comme ça, dans cet aparté infernal. Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. On n'est personne dans la vie vécue. On est quelqu'un dans les livres. Et plus on est quelqu'un dans les livres, moins on est dans la vie vécue.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Chez nous, les distractions étaient peut-être considérées comme vulgaires, mais elles attiraient une foule considérable. Dès que les femmes terminaient leur corvée domestique, elles se précipitaient pour demander où tante Habiba racontait ses histoires. À quel endroit la cousine Shema donnait ses représentations. Les spectacles abondaient surtout dans des lieux discrets, un peu à l'écart, au dernier étage ou sur les terrasses. Chacun était censé apporter son petit coussin pour s'asseoir, une glissa en arabe, dénicher une bonne place devant et s'asseoir sur le tapis qui servait à délimiter l'auditoire. La démocratie régnait. Les premiers arrivés, sans distinction d'âge ou de rang, avaient droit aux loges, c'est-à-dire aux meilleures places. Et nous, les enfants, étions systématiquement devant. Confortablement assis sur mon coussin, les jambes croisées, je sillonnais la planète. Sautant d'une île à l'autre sur des bateaux qui faisaient naufrage, avant d'être miraculeusement repêché par des princesses pleines de ressources. Au plus fort de l'excitation, il m'arrivait de prendre mon coussin sur mes genoux et de me balancer d'avant en arrière, complètement sous le charme, prenant mon envol sur les mots étranges que nous lançait Shema ou tante Habiba, grande prêtresse de l'imaginaire. Tante Habiba était certaine que chacune de nous possédait en soi une sorte de magie, enfouie dans ses rêves les plus intimes. Quand vous êtes emprisonné, sans défense, derrière les murs, coincé dans un harem, disait-elle, vous rêvez d'évasion. Il suffit de formuler ce rêve pour que la magie s'épanouisse. Les frontières disparaissent. Les rêves peuvent changer votre vie et peut-être le monde, finalement. La libération commence quand les images se mettent à danser dans votre petite tête et que vous commencez à les traduire en mots. Les mots ne coûtent rien. Elle n'arrêtait pas de nous répéter que nous avions tous ce pouvoir intérieur et qu'il ne tenait qu'à nous d'en jouer. Je serais donc capable de faire disparaître les frontières, moi aussi. Voilà le message que je retenais, assise sur mon coussin, là-haut sur la terrasse.
Bonjour Leïla Slimani. La semaine dernière, nous donnions à entendre des extraits de votre premier roman, Le Jardin de l'Ogre, paru en 2014 aux éditions Gallimard. Cette semaine, vous nous avez fait la joie d'accepter notre invitation à ce voyage parmi quelques auteurs qui ont compté dans votre parcours d'écrivain et dans votre vie. Et nous en sommes ravis. Le premier extrait que vous avez choisi et que nous venons d'entendre est signé Fatima Mernissi et s'intitule « Rêve de femme ». C'est un texte qui nous transporte au Maroc, dans les années 40, au cœur de la vie d'un harem. Dans ce récit savoureux plein de tendresse, de sensualité et d'humour, l'auteur nous raconte son enfance entre les murs d'un harem et célèbre le triomphe de l'imagination et du verbe contre toutes les frontières érigées. Voici un leitmotiv qui ne vous est pas tout à fait étranger, vous dédiez d'ailleurs à Fatima Mernissi l'un de vos derniers ouvrages. Pour cette rentrée, vous signez en effet deux livres engagés qui nous parlent de la condition féminine et de la sexualité au Maroc. Un document intitulé « Sexe et mensonges » et un roman graphique « Parole d'honneur », tous deux disponibles aux éditions des Arènes. À travers ces deux livres, vous développez une réflexion libérée des tabous et vous dénoncez une situation totalement hypocrite qui a mené votre pays à une misère sexuelle généralisée, je cite. Or, nous rappelez-vous à juste titre, la liberté sexuelle fait partie des droits de l'homme. On a envie de dire les droits de l'homme et de la femme. Elle est l'un des éléments clés dans la construction de l'individu et dans la recherche du bonheur. Ouvrons ce parcours littéraire, donc très personnel, en pénétrant à pas feutrés dans le cabinet de curiosité de l'écrivain Leïla Slimani. Vous avez choisi « Quelqu'un » de Robert Pinget, paru aux éditions de Minuit en 1965. Dans ce roman, l'auteur nous invite à entrer dans les coulisses de l'écriture, avec ses ratés, ses agacements, ses obsessions et ses questionnements perpétuels. Le narrateur écrivain vit dans une pension de famille où il consacre son temps à écrire. Le soliloque qui suit ouvre le roman. À vous.
Il était là, ce papier. Sur la table, à côté du pot, il n'a pas pu s'envoler. Est-ce qu'elle a fait de l'ordre? Est-ce qu'elle l'a mis avec les autres? J'ai tout regardé, j'ai tout trié, j'ai perdu toute ma matinée. Impossible de le trouver. C'est agaçant, agaçant. Je lui dis depuis des années de ne pas toucher à cette table. Ça dure 2 jours et le troisième, elle recommence. Je ne retrouve plus rien. Il paraît que c'est partout la même chose, dans toutes les maisons, dans tous les ménages. Alors, il faudrait supprimer les bonnes ou les femmes. Moi, je m'en passerai. J'ai mes petites affaires, mon petit travail. Je peux me passer de tout le monde, je peux vivre seule. La bouffe, ce n'est pas compliqué et le reste, ça n'existe pas. Il n'y a que le travail qui compte. C'est vrai ça, se laisser emmerder toute la vie par des personnes qui mettent en ordre vos papiers. Il aurait fallu que je m'arrange autrement, mais voilà. On est embringué dans l'existence, on ne sait pas seulement comment. Je n'ai pas l'intention d'en parler de mon existence, mais probable qu'il va falloir. C'est d'un inintérêt, d'un plat, à se demander si c'est vrai. Tout ça pour ce papier. Je ne peux pas continuer sans ce papier. Où est-ce qu'il se serait envolé? Est-ce que j'aurais laissé ma fenêtre ouverte? C'est possible par cette chaleur, mais je n'ai sûrement pas laissé le papier sans rien dessus. Le cendrier, la loupe, quelque chose. Je fais tellement attention. Je me dis tout le temps que mes papiers pourraient s'envoler.
Feuilletons ensemble un nouvel ouvrage de votre bibliothèque, Léla Slimani. Vous avez choisi le fameux journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, paru au tout début du XXe siècle. Ce texte, adapté au cinéma par Buñuel, avec la flamboyante et regrettée Jeanne Moreau, observe avec une ironie mordante les travers de la bourgeoisie et les rapports de domination qui s'établissent avec les domestiques. Une femme de chambre est plongée au cœur de l'intimité d'un foyer, un singulier poste d'observation de ses semblables.
Entrez, entrez. Et vous, Célestine?
Oui, monsieur.
Écoutez-moi, ça ne vous ennuie pas que je vous touche le mollet? Oh, ne craignez rien, vous n'avez rien à craindre de moi, absolument rien. Vraiment, ça ne vous ennuie pas?
Non, monsieur.
Quelle est votre pointure?
35.
Voilà, chaque soir, quand vous viendrez me voir, je vous ferai mettre ces bottines. Célestine, Célestine, j'aime beaucoup ce prénom, sincèrement. Mettez ça là. Mais il est un peu trop long, vous ne trouvez pas?
Célestine, récemment arrivée en Normandie pour se reposer des turbulences parisiennes, cette dernière décide de raconter son quotidien dans un journal avec, je cite, « toute la franchise qui est en elle et, quand il le faut, toute la brutalité qui est dans la vie ». Voyons comment Célestine déchiffre au premier coup d'œil la personnalité de sa nouvelle maîtresse, Madame Lanlaire. Aussitôt arrivée, encore étourdie par 4 heures de chemin de fer en 3e classe et sans qu'on ait à la cuisine seulement songé à m'offrir une tartine de pain, Madame m'a promenée dans toute la maison, de la cave au grenier, pour me mettre immédiatement au courant de la besogne. Oh, elle ne perd pas son temps, ni le mien. Ce que c'est grand, cette maison, ce qu'il y en a là-dedans, des affaires et des recoins, un bien merci. Pour la tenir en état comme il faudrait, 4 domestiques n'y suffiraient pas. À chaque minute, en me montrant quelque chose, Madame me disait « Faudra bien faire attention à ça, ma fille. C'est très joli, ça, ma fille. C'est très rare, ma fille. Ça coûte très cher, ma fille. » Elle ne pourrait donc pas m'appeler par mon nom, au lieu de dire tout le temps « ma fille par-ci, ma fille par-là », sur ce ton de domination blessante, qui décourage les meilleures volontés et met aussitôt tant de distance, tant de haine entre nos maîtresses et nous. Est-ce que je l'appelle la petite mère, moi? Et puis, Madame n'a dans la bouche que ce mot « très cher ». C'est agaçant. Tout ce qui lui appartient, même de pauvres objets de 4 sous, c'est très cher. On n'a pas idée où la vanité d'une maîtresse de maison peut se nicher. Si ça ne fait pas pitié. Elle m'a expliqué le fonctionnement d'une lampe à pétrole, pareil d'ailleurs à toutes les autres lampes, et elle m'a recommandé « Ma fille, vous savez que cette lampe coûte très cher et qu'on ne peut la réparer qu'en Angleterre. Ayez-en soin, comme la prunelle de vos yeux. » J'ai envie de lui répondre « Dis donc la petite mère, et ton pot de chambre, est-ce qu'il coûte très cher? Et l'envoie-t-on à Londres quand il est fêlé ?» Non, la vraie, elle en a du toupet. Et elles en font du chichi pour peu de choses. Et quand je pense que c'est uniquement pour vous humilier, pour vous épater. La maison n'est pas si bien que ça. Il n'y a pas de quoi vraiment être si fier. De l'extérieur, mon Dieu, elle a l'air de quelque chose, mais à l'intérieur, c'est triste, vieux, branlant, et ça sent le renfermé. Je ne comprends pas qu'on puisse vivre là-dedans. Madame non plus n'est pas habillée comme à Paris. Elle manque de chic et ignore les grandes couturières. Elle retarde d'au moins 10 ans sur la mode. Mais quelle mode ! Quoique ça, elle ne serait pas mal si elle voulait. Du moins, elle ne serait pas trop mal. Son pire défaut est qu'elle n'éveille en vous aucune sympathie, qu'elle n'est femme en rien. Même si elle a des traits réguliers, de jolis cheveux naturellement blonds et une belle peau, je serais bien étonné que madame fût portée sur la chose. Aux expressions de son visage, aux gestes durs, aux flexions raides de son corps, on ne sent pas du tout l'amour. Et jamais le désir, avec ses charmes, ses souplesses et ses abandons, n'a passé par là. Des vieilles filles vierges, elle garde en toute sa personne je ne sais quoi d'aigre, de desséché, de momifié, ce qui est rare chez les blondes. Bien que madame se force pour être aimable, elle n'est sûrement pas à la cool, comme des fois j'en ai vu. Je la crois très méchante, très moucharde, très ronchonneuse, un sale caractère et un méchant cœur. Elle doit être sans cesse sur le dos des gens, à les asticoter de toutes les manières. Et des « savez-vous faire ceci ?» et des « savez-vous faire cela ?» ou bien encore « êtes-vous casseuse ? Êtes-vous soigneuse ? Avez-vous beaucoup de mémoire ? Avez-vous beaucoup d'ordre ?» Ça n'en finit pas. Et aussi « êtes-vous très propre ? Moi, je suis exigeante sur la propreté. Je passe sur bien des choses, mais sur la propreté, je suis intraitable. Est-ce qu'elle me prend pour une fille de ferme, une paysanne, une bonne de province ?» La propreté, oh, je la connais cette rengaine, elles disent tout ça. Et souvent, quand on va au fond des choses, quand on retourne leurs jupes et qu'on fouille dans leur linge, ce qu'elles sont sales, quelquefois à vous soulever le cœur de dégoût. Il me tarde de voir madame toute nue pour m'amuser un peu, ça doit être du joli.
Célestine, je vous avais pourtant demandé de faire très attention à ça.
Mais madame, ce n'est pas ma faute, je vais vous expliquer.
Vous n'expliquez rien du tout.
De quoi s'agit-il?
La lampe anglaise, elle a cassé le globe.
Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, je n'aimais pas cette lampe.
J'espère que dorénavant, vous ferez plus attention.
Oui, madame.
J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je grille. Tu me fous le feu à la peau. T'as peut-être pas des bras d'athlète. T'as peut-être pas le torse velu. Mais j'adore tes mirettes qui se brouillent quand tu me dis que tu m'as dans Napoléon, tu m'as dans Napoléon, tu m'as dans Napoléon, Léon, 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 Léon. Mais voilà qu'un soir au cinérama, au ciné en longueur, sur l'écran exhibiteur, une femme, un serpent, une chatte mollement étendue plus que nue t'a émue. Cette femme plus que nature, en couleur plus que pure, cette roulure sans pelure qui roulait en voiture, cette glu, ce serpent, cette chatte mollement s'est glissée, s'est lavée au creux de ta peau, Léon. Tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, 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 Léon. Depuis tu prends des airs rêveurs, Léon. Pourquoi mon Léon? T'es plus mon Léon. Pour une étoile dont la peau n'est qu'un rayon, un halo, nébuleuse, vapeur, sans chaleur. J'aurais ta peau, Léon, j'aurais ta peau, Léon, j'aurais ta peau, Léon, 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 Léon. Ce fut voluptueusement, sans cri, ni geste, ni adieu. Tu basculas dans le néant, tu n'auras pas vécu bien vieux. C'était qu'une petite écorchure sur la peau de ta figure que tu te fis au rasoir. Je l'avais mouillée de curare. J'ai eu Napoléon, j'ai eu Napoléon, j'ai eu Napoléon, Léon, 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 Léon.
Poursuivons notre exploration de vos livres de chevet avec un nouveau journal, une forme pour laquelle vous semblez, chère Leïla Slimani, avoir une inclination particulière. Le livre que j'ai entre les mains s'intitule « La douleur » et il est signé Marguerite Duras. Paru en 1985, « La douleur » relate l'attente d'une femme dont le mari est interné dans un camp de concentration pendant près d'un an. un texte magnifique sur l'angoisse et le désordre de la pensée face à la souffrance, comme le dit l'auteur elle-même. Nous sommes à la fin du mois d'avril 1945, juste avant la libération de Berlin par les troupes alliées. Auprès de son nouveau compagnon, Dionys, dénommé D, Marguerite Duras attend les nouvelles de Robert Anthelme, dit Robert L, depuis 11 mois. Fiévreuse depuis quelques jours, elle est à bout, exténuée par la peur et l'incertitude, quand survient un coup de fil qui la fait basculer.
Dimanche 22 avril. Toujours sur le divan, près du téléphone. Hier, sur le coup de 10 heures, tout à coup, chez moi, la peur était rentrée. La peur de tout. Tout à coup, j'avais relevé la tête et l'appartement avait changé. La clarté de la lampe aussi, jaune, tout à coup. Et tout à coup, la certitude en rafale, il est mort. 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 Le 21 avril, mort le 21 avril. Je m'étais levée et j'étais allée au milieu de la chambre. C'était arrivé en une seconde, plus de battements aux tempes. Ce n'est plus ça. Mon visage se défait, il change. Je me défais, je me déplie, je change. Il n'y a personne dans la chambre où je suis. Je ne sens plus mon cœur. L'horreur monte lentement dans une inondation, je me noie. Je n'attends plus tellement j'ai peur. C'est fini, c'est fini? Où es-tu? Comment savoir? Je ne sais pas où il se trouve. Je ne sais plus non plus où je suis. Quel est le nom de cet endroit-ci? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? De quoi s'agit-il? Qui c'est ça, Robert L? Plus de douleur. Je suis sur le point de comprendre qu'il n'y a plus rien de commun entre cet homme et moi. Autant en attendre un autre, je n'existe plus. Alors du moment que je n'existe plus, pourquoi attendre Robert L? Mardi 24 avril. Le téléphone sonne. Je me réveille dans le noir, j'allume. Je vois le réveil, 5h30. La nuit. J'entends. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est ici, oui, Robert L. Silence. Je suis près de D qui tient le téléphone. J'essaie d'arracher l'écouteur. Ça dure. D ne lâche pas. Quelle nouvelle? Silence. On parle de l'autre côté de Paris. J'essaie d'arracher le téléphone, c'est dur, c'est impossible. Et alors, des camarades? D lâche le téléphone et il me dit. Ce sont des camarades de Robert qui sont arrivés au Gaumont. Elle hurle. Ce n'est pas vrai. D a repris l'appareil. Et Robert? Elle essaye d'arracher. D ne dit rien, il écoute. L'appareil est à lui. Vous ne savez rien de plus? D se tourne vers elle. Ils l'ont quitté il y a 2 jours. Il était vivant. Elle n'essaie plus d'arracher le téléphone. Elle est par terre, tombée. Quelque chose a crevé les mots disant qu'il était vivant il y a 2 jours. Elle laisse faire. Ça crève. Ça sort par la bouche, par le nez, par les yeux. Il faut que ça sorte. D a posé l'appareil. Il dit son nom à elle. Ma petite Marguerite. Il ne s'approche pas, il ne la relève pas. Il sait qu'elle est intouchable. Elle est occupée. Laissez-la tranquille. Ça sort en eau de partout. Vivant. Vivant. On dit, ma petite Marguerite. Il y a 2 jours, vivant, comme vous et moi. Elle dit, laissez-moi, laissez-moi. Ça sort aussi en plainte, en cri. Ça sort de toutes les façons que ça veut. Ça sort. Elle laisse faire. D dit, il faut y aller, ils sont au Gaumont, ils nous attendent. Mais faisons-nous un café avant d'y aller. D rit, il ne cesse pas de parler. Ah, c'est un sacré bonhomme. Comment a-t-on pu penser qu'il l'aurait? Mais c'est un malin, Robert, il se sera caché au dernier moment. Nous qui croyions qu'il n'était pas débrouillard à cause de son air. D est dans la salle de bain. Il a dit, à cause de son air. Elle est contre le placard de la cuisine appuyée. C'est vrai, il n'a pas l'air de tout le monde. Il était distrait. Il n'avait jamais l'air de rien voir, toujours en allé au cœur de l'absolue bonté. Elle se tient toujours contre le placard de la cuisine. Toujours en aller au cœur de l'absolue douleur de la pensée. Elle fait le café. D répète. Dans 2 jours, on le verra arriver. Le café est prêt. Le goût du café chaud. Il vit.
Changeons de latitude pour découvrir avec vous, cher Leïla Slimani, un auteur proche de Tolstoï et de Tchekhov, qui fut le premier écrivain russe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1933. Il s'agit d'Ivan Bounine. Né en 1870 et exilé en France après la Révolution russe, Ivan Bounine fut douloureusement marqué par l'arrachement à sa terre natale. À l'âge de 70 ans, il entame la rédaction de 38 nouvelles, ciselées et rythmées comme du papier à musique, dont la tonalité est donnée dès le titre « Les allées sombres ». Vous avez choisi la nouvelle « Les cartes de visite », où l'on assiste à la naissance d'une idylle en même temps que sa fin. Comme souvent dans ces nouvelles, l'amour meurt aussitôt qu'il naît et il règne un amer goût de désenchantement. C'est l'automne et deux passagers font connaissance sur le pont d'un bateau à vapeur le long de la Volga. Lui est un jeune écrivain célèbre, issu d'une vieille famille de marchands. Elle, de conditions modestes, est une jeune femme mariée qui voyage seule. Nous voici donc aux premières loges, le lendemain de leur rencontre. Ils viennent de partager un dîner et nous assistons à leur intimité naissante. Maintenant, dans cette salle à manger, il regardait avec impatience ses bras maigres, son petit visage fané, qui n'en était que plus touchant, ses cheveux opulents et sombres, négligemment arrangés, qu'elle ne cessait de secouer depuis qu'elle avait ôté son chapeau noir et laissé glisser de ses épaules le petit manteau gris sur sa robe de coton. Il se sentait attendri et troublé de l'avoir entendu la veille parler avec tant de sincérité de sa vie de famille, de son âge qui n'était plus si jeune, et de l'avoir maintenant soudain si téméraire, usant de mots et de gestes qui lui allaient si étonnamment mal. Elle avait légèrement rougi sous l'effet de l'alcool, même ses lèvres pâles étaient devenues roses, et ses yeux avaient pris un éclat à la fois moqueur et somnolent.
« Voyez-vous ?»
lui dit-elle soudain.
« Nous venons de parler de rêves. Savez-vous ce qui me faisait le plus rêver quand j'allais encore à l'école? C'était de me faire faire des cartes de visite. À l'époque, nous n'avions plus un sou, nous avions vendu ce qui restait de nos terres et nous étions installés en ville, où je n'avais absolument personne à qui en donner. Mais comme j'en rêvais, c'était complètement stupide. »
Il serra les dents et avec force lui saisit la main dont il put sentir tous les petits os sous la peau fine. Mais elle interpréta mal son geste. Et comme une séductrice pleine d'expérience, d'elle-même la lui présenta aux lèvres, le regard plein de langueur. « Allons chez moi. »«
Oui, allons-y. C'est vrai qu'on étouffe ici avec toute cette fumée. »
Elle secoua ses cheveux et prit son chapeau. Dans la coursive, il la prit dans ses bras. Elle le regarda par-dessus l'épaule, fièrement, voluptueusement. Avec la haine de la passion et de l'amour, il faillit lui mordre la joue. Mais elle, telle une bacchante, par-dessus l'épaule lui présenta ses lèvres. Dans la pénombre de la cabine où le store était baissé, tout de suite, dans sa hâte de le satisfaire et de jouir avec insolence et jusqu'au bout de ce bonheur inespéré que le destin lui envoyait en cet homme beau, fort et célèbre, elle déboutonna sa robe, la laissa tomber à terre, et quand elle en sortit en la piétinant, pour apparaître svelte comme un petit garçon, les épaules et les bras nus, vêtue d'une chemise légère et de petits pantalons blancs, il fut douloureusement touché de tant d'innocence.
« J'enlève tout ?»
demanda-t-elle en chuchotant, exactement comme une petite fille. « Oui, tout. Tout, » dit-il de plus en plus sombre. Vive et soumise, elle enjamba tout le linge qui traînait par terre et resta nue, grise et mauve, avec ce corps si particulier aux femmes quand il est pris de frilosité nerveuse qu'il se tend et devient frais sous l'effet de la chair de poule. Et dans ses modestes bas gris, aux jartelles toutes simples et ses pauvres petites chaussures noires. Elle lui jeta un regard ivre et triomphant, les mains à ses cheveux pour en retirer les épingles. Glacée, il la suivait des yeux. Elle était mieux faite, plus jeune de corps qu'il n'avait pensé. La maigreur des côtes et des clavicules répondait à celle du visage et à la finesse des mollets, mais les hanches étaient vraiment fortes. Dans le ventre légèrement creux disparaissait un nombril minuscule et plus bas on retrouvait dans le relief soyeux d'un triangle noir la sombre richesse de ses cheveux. Quand elle eut retiré ses épingles, ils roulèrent en masse épaisse sur les vertèbres saillant dans le dos trop maigre. Elle perdait ses bas et en se penchant pour les retenir, laissa voir deux petits seins transis aux pointes brunes et fripées qui pendaient comme deux petites poires chétives, adorables de pauvreté. Il la força à goûter à cette impudeur extrême qui allait si mal à son visage et qui éveillait en lui pitié, tendresse et passion. On ne pouvait rien voir à travers les lames relevées du store, mais Ellie jetait des coups d'œil de terreur exultante, écoutant les voix tranquilles et les pas sur le pont juste sous la fenêtre, et cela augmentait avec encore plus de fureur les délices de sa débauche. Oh, comme ils sont prêts, ces gens qui parlent et qui marchent, et aucun d'eux n'a idée de ce qui se passe à deux pas dans cette cabine blanche. Un peu plus tard, il la déposa comme une morte sur sa couchette. Elle gisait, les dents serrées, les yeux clos sur son visage d'enfant pâli, apaisé et déjà triste. À la fin de l'après-midi, quand le bateau accosta où elle devait débarquer, elle se tenait à côté de lui, silencieuse, les paupières baissées. Avec cet amour que l'on garde à jamais blotti au coin du cœur, il déposa un baiser sur sa main froide et elle, sans se retourner, descendit la passerelle en courant pour se perdre dans la foule grossière qui encombrait le quai.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Dépression au-dessus du jardin, ton expression est au chagrin. Tu as lâché ma main, comme si de rien n'était, je l'ai laissé la fin. Les fleurs ont perdu leur parfum. Qu'importe un, le temps assassin. Au-dessus du jardin, j'ai l'impression que c'est la fin. Je te sens soudain tellement lointain. Tu t'es garé en chemin, tu essaies de me faire croire qu'on vint. Chagrin, tu as lâché ma main, comme si de rien n'était, de l'été c'est la fin, les fleurs ont perdu leur parfum. Qu'importe un, le temps assassin.
Mais l'amour naissant s'apparente parfois à un miracle. Découvrons à présent L'Astragale, un livre signé Albertine de Sarrazin. Écrit en grande partie en prison, L'Astragale est un texte bouleversant de sincérité au souffle puissant, une voix rare qui vous a conquise, Léla Slimani.
Tu n'as donc pas compris que pendant des mois à Paris et des années ailleurs, j'ai joui comme on se tue. J'ai poursuivi le fric parce qu'il donne l'illusion de posséder quelque chose. J'ai fait tout le mal que j'ai pu parce qu'il faut détruire rageusement tout ce qui vous rend jaloux. J'ai piétiné tous les espoirs à la traîne. J'ai brisé ce que j'aurais adoré. Tout ça s'était raté. Je pouvais me contracter des heures entières, passer enfin pour la dure salope, la perdue, l'irrécupérable. J'ai à mon actif toutes les vacheries, toutes les débauches. Mais comment toi n'as-tu pas senti que tout au fond s'était raté? Que mon cœur crevait d'amour et fondait à la moindre étincelle de beauté. Que toute haine tournait en moi à l'indifférence. Et qu'en fin de compte, je jouais ma dernière chance sur l'amour.
Lorsque paraît ce texte en 1965 aux éditions Jean-Jacques Pauvert, Albertine est l'une des premières femmes écrivains à parler de l'univers carcéral et de la prostitution. Violée à 10 ans, incarcérée à 16, l'auteur de L'Astragale raconte le journal d'une cavale et celui d'une rencontre amoureuse inattendue et passionnée, très inspirée de son histoire personnelle. En s'échappant de prison, Anne, son héroïne, se brise l'astragale, un petit os du pied. Incapable de marcher, Elle rampe jusqu'à la route et rencontre l'amour de sa vie, Julien Sarrazin, un petit truand qui la prendra sous son aile. Pendant un an, Anne passe de planque en planque dans l'attente des visites de son amoureux, jusqu'à sa guérison. Dans l'extrait qui suit, Anne savoure la présence trop rare de Julien et raconte son quotidien de fille des rues.
Je fourre mon nez dans l'épaule de Julien. Du bout des doigts, je démêle sa poitrine. Je m'imprègne du moelleux et du nacré de sa peau. J'apprends chaque détail, chaque grain rose ou brun, pour m'en souvenir et m'en faire forte jusqu'au prochain bonheur. Une soirée, une nuit, voilà mes bonheurs deux ou trois fois par mois. Le reste du temps, c'est la tâche, la corvée, la peur diffuse. Vers 16 heures, je fais une toilette appliquée, conçue pour résister jusqu'à la nuit. Bas inaccrochable, rimmel qui ne coule pas, fringue où l'on paraît élégante et l'on se sent chez soi. Je plie et j'époussette, je range ma chambre comme une pensionnaire. D'abord parce que j'ai un peu le trac des femmes de ménage, ensuite parce que peut-être je n'y reviendrai plus jamais si les poulets tombent sur moi. Il faut bien s'y attendre à chaque seconde, à chaque pas. Je découche rarement. En général, l'ennui m'assaille avant l'heure où je pourrais franchir le sommeil, devenir ombre et chercher des compagnons plus rémunérateurs que ceux du moment. D'ailleurs, les nuits, à 30 ou 50 sacs, je n'en ai entendu parler qu'en tôle, là où le baratin autorise tous les luxes. Sans doute, des nuits de cavaleuse devraient valoir plus cher encore. Mais la nuit couvre le jour, toutes les heures ont même couleur, la couleur blême du danger. Je retiens ma fatigue et mon dégoût, jusqu'à un gain donné, et je les lave ensuite dans de délicieux et compacts sommeils. Dans les bars où s'agglutinent les prostituées, j'ai retrouvé quelques mineurs de frênes qui tapinent en clandé jusqu'à l'âge requis pour la carte, ou qui ont atteint cet âge et sont devenus des professionnels. Moi, je marche. Je ne flâne pas au rade, je n'ai pas le temps, je n'aime pas le trottoir et je ne suis pas plus pute qu'autre chose. J'emploie ce moyen parce qu'il est rapide, qu'il ne nécessite ni horaire ni apprentissage, ou si peu. Les pattes des souteneurs, les roublardises des clients, je m'en défilais déjà à 16 ans et rien n'a beaucoup changé depuis. Je ne crains vraiment que la poulaille, n'ayant pas le moindre papier à lui présenter en cas de rafle. Mais sans cesse je change de rue, d'hôtel, d'allure. Je renifle les passants avant de leur répondre. Une intuition obscure et certaine m'arrête ou m'encourage. Des feux de signalisation clignotent dans ma tête. Rouge, attention. Vert, c'est bon. Passe, attends. N'attends pas et file, souris, viens. Le long des rues, je glisse des pas pressés, déterminés. Je boitille à peine et je marche le plus vite possible. La pensée constante de Julien m'éclipse et me protège. Mai approche. J'achète des robes assorties au premier hall. Des ratatouilles de couleur. Je marche en espadrille, comme autrefois. Je me saoule de marche sous les bourgeons de Pâques. Déjà un an que je suis dehors.
La prochaine étape de votre parcours littéraire nous emporte en Italie sous le regard ébloui du jeune Camus, ce cousin méditerranéen que vous admirez tant.
L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant il n'accepte pas de lui échapper. En fait, les hommes tiennent au monde et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Loin de vouloir toujours l'oublier, ils souffrent au contraire de ne point le posséder assez, étranges citoyens du monde exilés dans leur propre patrie. Sauf aux instants fulgurants de la plénitude, toute réalité est pour eux inachevée. Leurs actes leur échappent dans d'autres actes, reviennent les juger sous des visages inattendus, fuient comme l'eau de Tantale vers une embouchure encore ignorée. Connaître l'embouchure, dominer le cours du fleuve, saisir enfin la vie comme destin, voilà leur vraie nostalgie au plus épais de leur patrie.
Il s'agit d'une nouvelle intitulée « La mort dans l'âme », extraite du recueil de nouvelles « L'envers et l'endroit ». Âgé de 22 ans, Camus raconte l'émotion ressentie alors qu'il passa 6 jours sur une colline près de Vicence. Son récit vous parle parce que vous aimez aussi follement l'Italie. Et puis Camus sait dire mieux que personne et sans mièvrerie, nous dites-vous, la simplicité d'une forme de bonheur panthéiste si propre à la Méditerranée. J'entre en Italie, terre faite à mon âme. Je reconnais un à un les signes de son approche. Ce sont les premières maisons aux tuiles écailleuses, les premières vignes plaquées contre un mur que le sulfatage a bleui. Ce sont les premiers linges tendus dans les cours, le désordre des choses, le débraillé des hommes. Et le premier cyprès, si grêle et pourtant droit, le premier olivier, le figuier poussiéreux. Place pleine d'ombre des petites villes italiennes, heure de midi où les pigeons cherchent un abri, lenteur et paresse, l'âme y use ses révoltes. La passion chemine par degrés vers les larmes, et puis voici Vicence. Ici, les journées tournent sur elles-mêmes, depuis l'éveil du jour gonflé du cri des poules jusqu'à ce soir sans égal, doucereux et tendre, soyeux derrière les cyprès et mesuré longuement par le chant des cigales. Ce silence intérieur qui m'accompagne, il naît de la course lente qui mène la journée à cette autre journée. Qu'ai-je à souhaiter d'autre que cette chambre ouverte sur la plaine, avec ses meubles antiques et ses dentelles au crochet ? J'ai tout le ciel sur la face et ce tournoiement des journées. Il me semble que je pourrais le suivre sans cesse, immobile, tournoyant avec elle. Je respire le seul bonheur dont je suis capable, une conscience attentive et amicale. Je me promène tout le jour de la colline, je descends vers Vicence ou bien je vais plus avant dans la campagne. Chaque être rencontré, chaque odeur de cette rue, tous mes prétextes pour aimer sans mesure. Des jeunes femmes qui surveillent une colonie de vacances, la trompette des marchands de glace, les étalages de fruits, pastèques rouges aux graines noires, raisins translucides et gluants, autant d'appuis pour qui ne sait plus être seul. Mais la flûte aigre et tendre des cigales, le parfum d'eau et d'étoiles qu'on rencontre dans les nuits de septembre, les chemins odorants parmi les arbrisseaux et les roseaux, autant de signes d'amour pour qui est forcé d'être seul. Ainsi les journées passent, après l'éblouissement des heures pleines de soleil, le soir vient, dans le décor splendide que lui font l'or du couchant et le noir des cyprès. Je marche alors sur la route vers les cigales qui s'entendent de si loin. À mesure que j'avance, une à une, elles mettent leur chant en veilleuse, puis se taisent. J'avance d'un pas lent, oppressé par tant d'ardente beauté. Une à une, derrière moi, les cigales enflent leur voix, puis chantent. Un mystère dans le ciel d'où tombe l'indifférence et la beauté. Et dans la dernière lumière, je lis au fronton d'une villa « In magnificentia naturae resurgit spiritus ». C'est là qu'il faut s'arrêter. Avant de conclure ce voyage parmi vos lectures favorites, chère Leïla Slimani, empruntons avec vous le chemin du retour au pays natal, guidé par les mots de Mohamed Choukri, l'une des grandes voix de la littérature marocaine. Dans Le pain nu, Mohamed Choukri met en scène les souvenirs de son enfance sans pain et sans tendresse, entre Tétouan et Tanger dans les années 40. Dans une langue poétique et crue à la fois, l'auteur raconte ses années de vagabondage pour fuir un père violent, sa survie dans les bas-fonds des villes, sa découverte brute de la sexualité et de l'univers de la rue, une réalité taboue qui lui valut d'être censuré au Maroc. Dans l'extrait qui suit, le jeune Mohamed n'a pas encore quitté la maison de son père et relate son éveil à la sexualité entre fantasmes délicats et passage à l'acte trivial. Un matin, je montais sur le figuier et je vis Assia, ma voisine, à travers les branches. Assia, ça devait être la fille du propriétaire de ce jardin. La fille se retourna comme pour observer quelque chose ou quelqu'un. J'aperçus ses yeux, noirs et immenses, très vifs. Elle faisait presque peur. Si je ne la connaissais pas, j'aurais dit une diablesse. Elle s'approchait avec délicatesse du bassin en se retournant. Avait-elle peur ? Pourquoi ce tâtonnement et ces hésitations ? Pourquoi marchait-elle ainsi ? Debout sur la marche qui mène vers le bassin, elle se regardait comme si elle était seule au monde. Elle retira sa ceinture. Son corps m'apparut dans toute son innocence. Sa robe s'ouvrit, telles les ailes d'un oiseau qui tente en vain de s'envoler. Elle glissa sur ses épaules et je découvris son buste d'une blancheur éblouissante. Elle se retourna de nouveau. J'eus comme un vertige tant le plaisir était fort. J'étais ravi et stupéfait. Jamais auparavant mon corps n'avait connu un tel bouleversement. Je tremblais. Une figue tomba. J'en avalai une autre. Mon panier perdait ses figues. Le soleil se leva. Il était d'un rouge vif. Un œuf renversé dans un plat bleu. Les animaux saluaient cet éveil. Certains chantaient ou roucoulaient. Au loin braillait un âne que je ne voyais pas. En fait, je ne voyais que celle qui se dévêtait. Assia nue. Je m'imaginais toute la planète dans sa nudité, les arbres perdant leurs feuilles, les hommes abandonnant leurs habits, les animaux quittant leurs chevelures, nus. tout l'univers se mettant à nu. Peu après, j'allais être envahi et obsédé par mon sexe qui me démangeait à longueur de journée et me faisait mal. Un jour, après avoir bu une demi-bouteille d'eau de vie avec Tafersetti, un copain de café, nous décidâmes d'aller au bordel. Dame Arruda, connue par les gamins pour ses vertus d'initiatrice à la sexualité, nous dit
« Vous deux, vous avez bu, n'est-ce pas ?»«
C'est vrai, mais toi tu es belle et nous te voulons. » Tafersetti me regarda, je rassurai Arruda. « Nous avons un peu bu, nous sommes gays et nous voulons simplement coucher avec toi. » Elle nous observa en souriant, nous avions peur qu'elle refuse. Elle nous dit
« Bon, qui veut commencer ?»
Mon copain me dit « Vas-y, vas-y le premier s'il te plaît. » Arruda exigea d'abord l'argent. C'était normal, elle vendait son corps et nous l'achetions. Elle se dévêtit tout en gardant sa cigarette aux lèvres. La fumée lui fermait les yeux, ses lèvres très rouges et très grasses. Elle m'ordonna
« Ouvre ta bouche. »
J'avais peur. Elle déposa sa cigarette dans ma bouche entrouverte. Elle souriait. Elle me tourna le dos et me demanda de lui retirer son soutien-gorge. Mes mains sur son dos découvraient un duvet de poils. Cela m'excitait. Elle se tourna vers moi, tenant ses seins entre les mains. Elle me reprit sa cigarette. Je lui souris pour dissiper ma peur. Son corps nu faisait peur. Je pensais, elle a fait de ma bouche son cendrier.
« Fume !»
me dit-elle. Je pris une cigarette en tremblant.
« Déshabille-toi, pourquoi tu as peur ?»
Mon sexe était dressé. Je me mis à enlever mes habits, le cœur battant. Assia, son corps ne me procurait pas cette sensation de peur. Tandis que cette femme me faisait peur, elle me proposait d'entrer dans sa chair comme un couteau pénètre une plaie. Je pensais soudain, et si sa plaie avait des dents ? Et je glissais entre ses cuisses avec crainte. Je voulus l'embrasser, elle ferma ses lèvres et me donna sa joue. Ses seins m'échappaient. Arruda était comme un poisson, une femme poisson. Elle retira ma main posée sur sa poitrine.
« Hé ! »
cria-t-elle.
« Ma chair n'est pas de la pâte à modeler. Tu es encore jeune pour faire toutes ces choses avec une femme. Allez, c'est fini. »
Elle me repoussa. Je me retirai quelques gouttes sur le gland,
oh,
dit-elle.
« Tu es en train de me salir le lit. »
Elle essuya sa plaie avec un chiffon. Je pensais, c'est vrai, c'est une experte du sexe, mais c'est dommage, elle se plaint trop.
« Allez, lave-toi et va-t'en, »
me dit-elle.
« Ton copain attend. »
Peu après, Tafersetti me demanda, inquiet, « Comment est-elle ? » Merveilleuse, sans dents. « Comment elle a pas de dents ?» Non, il ne s'agit pas de sa bouche. Je veux dire que son sexe ne mord pas. Enfin, il te serre, t'aspire et te suce, mais ne mord pas. Tu verras, il est tiède et doux. Je pensais, son truc n'est pas beau, mais sa chaleur est bonne. Il calme les nerfs et supprime le vertige. Mohamed Choukri.
Moi, j'ai acheté une plume en 1952. Je la garde toujours. Par cœur. Je vais signer demain mon livre Colbos, le reclus de Tanger, avec cette plume. Je l'ai acheté 50 pesetas. Et je ne savais pas lire et écrire quand j'ai acheté cette plume. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que je savais qu'un jour, j'arriverais à apprendre à lire et à écrire. Et cette plume-là, elle m'accompagne toujours.
Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du tout. C'est dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une jarretelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les dessous chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, ont filé. Pudeur des sentiments maquillés outrageusement, rouge sang. Les dessous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie. Les dessous chics, c'est des dentelles et des rubans, d'amertume sur un paravent. Thank you. comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles.
Terminons, si vous le voulez bien, chère Leila Slimani, par un extrait de votre dernier livre, « Sexe et mensonges », paru aux éditions des Arènes et sous-titré « La vie sexuelle au Maroc ». Ce texte nous ramène à votre premier métier, le journalisme, ainsi qu'au Maroc, où vous avez grandi. Dans l'extrait qui suit, la cocasserie le dispute au pathétique, mais la scène résume à elle seule le degré d'hypocrisie qui entoure la question des mœurs sexuelles au Maghreb. Au Maroc, rappelons-le, toute relation sexuelle est interdite hors mariage, une absurdité à la source de nombreuses frustrations et violences que vous dénoncez ici.
La scène se déroule à l'aube, près d'une plage de Mohammedia, dans une vieille Mercedes. Dans les rôles principaux, Fatema Najjar, 62 ans, et Moulay Omar Ben Hamed, 63 ans. Surpris dans une posture sexuelle par la police, ils sont arrêtés en flagrant délit d'adultère. Cette scène, qui arrive tous les jours au Maroc et dans d'autres pays du Maghreb, est savoureuse en raison de la personnalité des protagonistes, qui sont tous deux des figures respectées du mouvement de l'unicité et la réforme, la branche idéologique du Parti de la Justice et du Développement, parti conservateur et islamiste qui siège au gouvernement. Fatema Najjar porte un voile serré et affiche sur les portraits qu'on connaît d'elle un visage austère, empreint de gravité. Veuve, elle est connue pour ses prêches très conservateurs. Dans une vidéo, on la voit notamment prévenir les jeunes filles contre la luxure et leur expliquer que les regards et les rires féminins incitent à la fornication. Docteur en études islamiques, Moulay Omar Ben Hamed est marié. Et il s'est fait notamment connaître pour avoir émis, en 2013, une fatwa interdisant les échanges de mots d'amour sur Facebook. Les deux amants ont donc fait profession de combattre le vice et la dépravation. Ils sont de ceux qui infusent dans la société marocaine un puritanisme morbide, éructant contre la fornication, les homosexuels, s'attaquant à la liberté des femmes ou au festival de musique. Comme souvent chez les dévots, le sexe les obsède, et avec l'aplomb de ceux qui n'ont jamais péché, ils menacent les paillards de l'enfer, font le lit de la misogynie et de la haine. Bien sûr, l'affaire déchaîne les passions. L'opinion publique se moque abondamment des deux tartuffes. Les courants les plus conservateurs, gênés aux entournures, cherchent des excuses aux amants. Mais derrière la farce, nous aurions tort d'occulter la tragédie. Car ce qu'ont vécu Najjar et Ben Hamed, des dizaines de Marocains le vivent chaque jour dans l'indifférence générale. Les deux islamistes ont vécu dans leur chair l'arbitraire et l'humiliation. Ils ont pu constater que l'exposition des pratiques sexuelles les plus intimes est une arme fatale dans la main de ceux qui souhaitent faire pression sur vous pour exercer une vengeance personnelle.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Pascal Bénard à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy, Perrine Malinge et Claire Tesser. Merci beaucoup, Leila Slimani, de nous avoir fait partager vos coups de cœur littéraires. Je rappelle que vous venez de publier deux ouvrages aux éditions des Arènes, un essai intitulé « Sexe et mensonges, la vie sexuelle des Marocains » et un roman graphique intitulé « Paroles d'honneur » illustré par Laetitia Corin. Bonne soirée et à la semaine prochaine.